Bonjour, ici Autre Radio, Autre Culture. Aujourd'hui, nous abordons le problème d'histoire maritime avec les corsaires de Salé. Et nous avons la chance d'avoir dans nos murs Leïla Maziane, qui est professeure d'histoire maritime à l'Université de Casablanca et qui coordonne également un groupe d'histoire maritime, enfin de recherche en histoire maritime sur l'histoire du Maroc, au Maroc. Bonjour Leïla.
Bonjour.
Effectivement, les corsaires de Salé, on en entend beaucoup parler et au niveau des archives françaises, c'est vraiment centré. À chaque fois, on parle des corsaires de la régence d'Alger, de Tunis. Mais alors, les corsaires de Salé, cela a l'air de poser énormément de problèmes au roi de France. Alors, quels sont ces corsaires de Salé ?
Alors, les corsaires de Salé sont des corsaires originaires de la ville de Salé, une ville située au Maroc, sur la rive gauche de la rivière, d'une rivière appelée Bourégrègue. Bon, c'est ce qu'on appelle actuellement Rabat. Hein, on devrait normalement les appeler corsaires de Rabat. Mais au XVIIe siècle, on les appelait corsaires de Salé parce que Rabat paraissait dans les sources sous le vocable de Salé. Et ces corsaires s'appelaient Salétains. Hein. On la trouve sous le nom de Salé ou Salé le Neuf pour dire Rabat. Et donc, les corsaires de Salé, on commence à entendre parler d'eux à partir de la fin XVIe siècle et début XVIIe siècle, lorsque la rive gauche du Bourégrègue a eu la chance, entre guillemets, d'accueillir ces immigrés espagnols qui se sont installés à Salé dès la fin du XVIe, début XVIIe siècle. Il s'agit essentiellement d'une population extrémaigne, c'est-à-dire originaire d'Estrémadure, un petit village qui s'appelle Hornachos, et ses habitants s'appelaient Hornacheros. Donc ils se sont installés au Maroc dès la fin du XVIe siècle, sur la rive gauche, comme j'ai dit, la rive gauche du Bourégrègue, dans ce qu'on appelle la Casbah ou la citadelle, ce qu'on appelle actuellement la citadelle des Oudaya. Ils étaient au nombre de 3000 personnes. Alors eux, ils ont eu la chance de partir d'Espagne en gardant leurs biens. Et donc c'est ce qui leur a permis, une fois installés à la Casbah, d'armer des navires en course pour courir sur les navires espagnols. Parce que bon, ils avaient les moyens d'armer les navires et pour prendre leur revanche des Espagnols. Par la suite, cette population-là s'est vue agrandir avec l'arrivée d'un nouveau contingent plus important. Il s'agit cette fois-ci des Andalous. C'est ces fameux Maurices qui ont été chassés d'Espagne après le décret d'expulsion de 1609 de Philippe III. Et donc ces Maurisques-là étaient au nombre de 10 000 personnes. Eux aussi se sont installés cette fois-ci pas à la Casbah, parce que comme c'était assez limité pour eux, donc les Hornacheros les ont fait installer juste à côté d'eux, ce qu'on appelle actuellement la Médina de Rabat, l'ancienne Médina de Rabat. Ils étaient en nombre quand même de 10 000 personnes. Et donc ces 13 000 personnes, plus une population, je dirais, maure, marocaine, autochtone, qui était elle aussi déjà sur place, mais pas très importante, donc se sont lancés dans l'activité corsaire. Le tout a été soutenu par l'arrivée massive de ce qu'on appelait les pirates de la Marmora. Alors, qui sont-ils ces pirates de la Marmora ? La Marmora, c'est un port qui est situé à 40 km au nord de Rabat, ou au nord de Salé. Et donc, c'est un port qui était très important et qui était un foyer de pirates venus essentiellement d'Europe du Nord. Leur leader, c'est un Anglais qui s'appelle Henry Mainwaring, qui était le leader de ce foyer et de ces pirates de la Marmora. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces pirates anglo-saxons vont bientôt être chassés par les Espagnols. En 1614, les Espagnols qui prennent pied dans ce port et chassent les pirates sur place. Donc, ces pirates-là, une bonne partie est revenue en Angleterre, une autre est partie à Alger, mais la plupart se sont, bien sûr, installés au port de Salé, qui était à quelques kilomètres de chez eux. Et ainsi, les Salétains aussi ont pu profiter, bien évidemment, de l'apport de ces marins anglo-saxons. À ces gens-là, il faut ajouter aussi le rôle de ce qu'on appelle les Turcs de profession ou les renégats, les convertis. Ce sont ces Européens chrétiens qui, pour des raisons diverses, ont atterri en terre d'islam. Ils disposaient d'une technicité, surtout navale, supérieure à la nationale, entre guillemets. Et donc, les Salétains les ont accueillis et ils ont pu avoir des postes clés dans la société corsaire. C'était surtout les marins, venus, toute l'Europe, en fait, y était représentée. À Salé, mais aussi, on les retrouve aussi dans les autres villes corsaires barbaresques, Alger, Tunis, Tripoli, Djidjeli. Donc, c'était quand même une population qui a joué un rôle très important dans l'épanouissement de l'activité corsaire en Afrique du Nord, et particulièrement à Salé.
Alors, sur quelles sources on peut se baser pour travailler sur un tel sujet? Qu'est-ce que tu as eu en main pour pouvoir développer et observer un petit peu toutes ces relations?
Disons que bon, pour travailler sur les corsaires de Salé, il a fallu suivre les suivre dans leur campagne. Donc, les sources, bien évidemment, il y a des sources locales, les sources marocaines qui restent quand même dans la peau, restent assez limitées pour le XVIIe siècle, hein, 17e, début 18e. Par contre, on trouve beaucoup plus de choses pour la fin 18e et 19e siècle. Mais pour la période sur laquelle j'ai travaillé, il y a très peu de choses. Alors j'étais obligée en quelque sorte d'aller dépouiller les archives étrangères, notamment les archives françaises, les archives de la Chambre de commerce, les archives diplomatiques de Nantes, les archives nationales, fonds anciens, le fonds marine. Et donc, où il y a des fonds vraiment très importants concernant l'activité corsaire, l'activité maritime en général, et la course en particulier des débuts du XVIIe siècle. Donc il y a des correspondances, des mémoires, des rôles d'esclaves, des rôles, des listes de prises, des rôles de captifs d'un côté comme de l'autre, rôles de turcs. Donc il y a aussi les archives espagnoles qui restent quand même très très riches à ce sujet. Elles sont réparties entre plusieurs fonds. Donc j'ai travaillé sur les archives par exemple de Simon Casse, bien évidemment, les archives historico nationales, les archives historiques nationales de Madrid, les archives de la Corona de Aragon à Barcelone. Les sources espagnoles restent quand même, les archives espagnoles restent vraiment très importantes pour écrire l'histoire maritime du Maroc. Il y a aussi les archives hollandaises. Hein, j'ai essayé de travailler également sur les archives de La Haye, les archives d'État à La Haye, qui dispose d'un fonds extraordinaire sur l'histoire maritime, pas seulement du Maroc, mais aussi du Maghreb, sur Alger, Tunis, Tripoli aussi. Cette histoire-là maritime, elle est très présente aussi dans les archives hollandaises, les archives italiennes, celles de Genova, par exemple. Et donc, j'ai eu aussi la chance de travailler sur des archives ou des sources qui ont été publiées, notamment les sources inédites de l'histoire du Maroc, et qui regroupent en fait des sources recueillies un petit peu dans les archives bibliothèques européennes et qui ont été publiées il y a déjà, depuis un siècle déjà, sous forme de 30 tomes, et qui sont vraiment c'est une mine inestimable de documents sur l'histoire du Maroc, du 16e jusqu'à la moitié du 18e siècle.
Est-ce que par hasard tu as cherché à faire des relations entre des témoignages qui ont été publiés peut-être un peu plus tardivement sur des cahiers de voyage de Français par rapport à ces archives? Est-ce que tu as vu des corrélations ou justement des grosses différences?
Justement, les relations de voyage, ce qu'on appelle les relations de voyage ou de captivité. C'est-à-dire les relations écrites par les voyageurs français ou étrangers en général, pas essentiellement français, espagnols, hollandais, anglais, qui étaient de passage au Maroc ou dans le cadre d'un voyage, d'une ambassade, ou pour le rachat des captifs. C'est le cas par exemple des récits, ce qu'on appelle les pères de rédemption, qui écrivaient leur mémoire une fois rentrés chez eux. Bien évidemment, ces sources restent très importantes. Il y a aussi ce qu'on appelle les relations de captivité. Alors là, ce sont les captifs qui racontent eux-mêmes l'histoire de leur captivité. La plus connue, c'est ce qu'on appelle la relation de Mouette, Germain Mouette. C'est un captif de Dieppe, originaire de Dieppe, qui a passé 11 ans au Maroc. qui a été pris bien évidemment par les corsaires de Salé en 1671 et qui est resté, comme je vous ai dit, 11 ans au Maroc. Il a, dans sa relation, enfin, on sait qu'il a appris la langue arabe. Il a même adossé un glossaire à la fin de sa relation des mots arabes-français. Et puis, il nous a raconté les circonstances de sa captivité, les travaux qu'il faisait une fois au Maroc, où il s'est déplacé un petit peu dans toutes les villes, les grandes villes du royaume, et puis aussi les circonstances de son rachat par les missions de rédemption. Après 11 ans quand même de captivité. Ben, les exemples sont très nombreux. Il y a aussi des relations de captifs anonymes. Par exemple, une relation qui date d'à peu près de la même période. On ne connaît pas l'auteur. Et donc, elle aussi, elle raconte, ça s'intitule « L'histoire d'un captif racheté à Maroc ». Voilà, avec le, bien sûr, pour reprendre l'intitulé exact, il raconte bien évidemment l'organisation de la course, qui sont ces corsaires, comment sont les navires montés par les corsaires, les types de navires, le rôle de l'État ou du sultan dans l'activité corsaire, les travaux des captifs, les coutumes et les habitudes des morts, ce qu'on appelle les morts, les habitants de la Mauritanie, ce qu'on appelait la Mauritanie tangitane. Donc, c'est vrai, ça reste quand même une source très, très importante pour contribuer à l'écriture ou à la réécriture de cette histoire maritime du Maroc.
Alors on va revenir justement à l'organisation de ces corsaires. Comment s'organisent-ils ? Est-ce qu'ils sont indépendants les uns des autres ou est régis par une espèce de royauté de... Comment ça se passe justement ?
Ben, disons que à l'époque où les corsaires de Salé se sont organisés au début à Rabat ou à Salé le Neuf, à l'époque le Maroc vivait dans une certaine instabilité politique. Suite à la mort d'un grand sultan qu'on appelle Al-Mansour, le victorieux, parce que c'est lui qui a remporté une bataille décisive contre les Portugais qui voulaient envahir la terre d'Afrique, le Maroc, en 1578. Donc il a régné entre 1578, après la bataille, ce qu'on appelle la bataille des Trois Rois, et jusqu'à 1603. Donc après la mort de ce sultan, Al-Mansour, eh bien, comme il n'avait pas élu de successeur, eh bien, il y a eu une guerre entre ses fils pour, bien sûr, accaparer le pouvoir. Et donc, cette instabilité politique a contribué à l'apparition de plusieurs émirats un peu partout au Maroc. Des états à peu près, des petits états, des créations, si vous voulez, étatiques, indépendantes du pouvoir central qui était à Marrakech. Et dans cette mouvance-là, eh bien, les corsaires de Salé se sont installés au Maroc et cette instabilité a encouragé les salétains, eux aussi, à réclamer leur indépendance de toute tutelle, ce qu'on appelle du marzanien, c'est-à-dire de l'État, du pouvoir central. En 1627, il s'érige en république, en 1627 exactement, et ce jusqu'à 1640. Et alors, là, ils deviennent indépendants, ils ont mis en une place un diwan, composé par 16 personnes, qui est élu tous les deux ans. Et c'est un diwan normalement qui regroupe toutes les hautes personnalités de la ville. Et le gouverneur, il est élu par le diwan. Alors le premier gouverneur de la République de Salé, c'est un renégat hollandais de son nom Jan Jones, né à Haarlem, et qui s'installe à Salé dès le début de la course, c'est-à-dire vers les années 20 du XVIIe siècle. Et c'est lui qui a été élu comme gouverneur de la ville, de la République de Salé. Et il a pris le nom de Morad Reis. On le connaît parce que c'est lui qui a étendu le théâtre des opérations des corsaires de Salé. C'est lui qui était derrière une opération de pillage de la capitale islandaise Reykjavik en 1627. C'est-à-dire, c'est l'année de la déclaration d'indépendance de la République de Salé, qui coïncide bien évidemment avec ce pillage-là. Et une fois rentré de cette campagne victorieuse, il a été systématiquement élu comme premier gouverneur de la République de Salé. Donc, ils se sont érigés en République pendant 13 ans. Par la suite, les événements politiques ont commencé à s'organiser un petit peu, de façon à ce qu'il y ait un nouvel État qui se met en place, un État fort, du moins dans la partie nord-ouest du Maroc. Et ce nouvel État, qui est dirigé par une dynastie qui s'appelle les Dila, donc elle a pris le pouvoir à Salé. Mais ceci dit, c'était un pouvoir un peu, je dirais, très formel, parce que les Salétains continuaient à armer en course d'une façon indépendante, tout au, bien évidemment en donnant les 20% aux nouveaux responsables. Et donc par la suite aussi, il faut attendre l'année 1666 pour qu'une nouvelle dynastie, alors là très forte, se mette en place dans le pays. C'est la dynastie des Alaouites qui règne jusqu'à nos jours, ça fait 400 ans. Donc ils ont pacifié tout le pays, ils l'ont organisé et bien évidemment ils se sont bien évidemment installés dans ce fameux port, ce qu'on appelait la Rochelle d'Afrique. Ils ont mis la main dessus et aussi sur la course. Avec l'arrivée des sultans alaouites au pouvoir, ce sont les sultans qui deviennent armateurs de course. Notamment le sultan Moulay Ismail, un contemporain de Louis XIV. Et donc la course continue, mais elle a pris bien évidemment d'autres formes. C'est plus une course privée, si vous voulez, mais c'est plutôt une course d'État. C'est l'État qui se fait armateur. Et on a beaucoup plus d'armateurs d'État que d'armateurs privés. C'est ce qui va contribuer en quelque sorte à la décadence progressive de la course à Salé fin XVIIe, début XVIIIe siècle.
C'est pour ça que certains ont tendance à comparer la marine corsaire de Salé comme une marine de guerre et comme une marine d'État, enfin la marine d'État, une marine de guerre.
Justement, parce qu'avec l'arrivée des nouveaux sultans, les sultans alaouites, ils ont essayé d'utiliser la course comme un levier politique, comme une arme pour négocier essentiellement avec les puissances européennes. C'est ce que nous allons voir avec Moulay Ismail tout au long de son règne qui a duré longtemps. C'est ce qu'il va essayer d'utiliser la course, et la course salétine et aussi à Salé et à Tétouan pour ses propres ambitions politiques et ses propres ses plans politiques, surtout dans le cadre de l'échange ou du rachat des captifs musulmans en Europe, en Espagne, en France essentiellement.
Pourquoi on essaye de rapprocher Salé avec La Rochelle ? On parle de La Rochelle. Parce que c'est pas au niveau géographique, je veux dire, ça n'a pas du tout la même, ça a pas la même représentation.
Justement, le pourquoi, c'est peut-être parce que ce sont deux ports atlantiques, parce que Salé, ça reste un port atlantique, contrairement à l'idée qu'on a de ce port. Pourquoi La Rochelle ? Pourquoi on l'appelle La Rochelle d'Afrique ? Parce qu'à un certain moment, quand même, c'est une première dans l'histoire du Maroc, une ville maritime s'érige en république. C'est quand même assez impressionnant, parce qu'on n'a pas d'autres modèles au Maroc. Et donc, les historiens ont tendance à l'appeler la Rochelle africaine ou la Rochelle maghrébin, parce que quand même, La Rochelle, à une certaine période de son histoire, elle aussi est devenue une sorte de république au XVIe siècle, je pense.
Oui, c'est un port franc, pratiquement. Qui était franc de toute... finalement de tout droit, et c'est pour ça qu'elle a été essentielle, elle a énormément grossi à ce niveau-là, effectivement. Mmh. Alors, pourquoi Salé, étant donné qu'on sait que c'est un port fluvial ?
Oui, oui, oui.
Et moi, j'avais lu beaucoup d'articles à ce niveau-là, en disant que le problème de Salé, c'est qu'il s'ensablait énormément. Alors, pourquoi Salé ? Pourquoi avoir choisi cet endroit qui posait problème, justement ?
Disons que c'est vrai que Salé souffre de nombreux handicaps, géographiques. D'abord, il y a le problème de la barre, ce qu'on appelle la barre, à l'estuaire du fleuve. l'ensablement de la barre posait problème, mais en même temps, c'est un ensablement qui décidait aussi de la construction des navires. Parce que généralement, les navires de Salé, c'est des petits navires. Enfin, c'est des navires qui sont très légers, petits, qui ont un faible tirant d'eau pour pouvoir sortir du fleuve. Parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont légers, ils étaient aussi très rapides. Et ça les aidait, bien évidemment, pour partir à la chasse, au butin, aux prises. Ça les aidait énormément parce qu'ils étaient extrêmement rapides. Et c'était aussi de bons voiliers. Ils avaient, disent les sources françaises, ils avaient une voilure disproportionnée par rapport à la coque, en les comparant aux navires français. Donc c'était des navires légers, petits, rapides. Et alors, l'ensablement, je dis, c'est positif aussi, parce que même les marines européennes qui essayaient de mettre fin aux activités corsaires et de essayer de mettre fin aussi et de brûler les navires, eh bien, ils n'arrivaient pas du tout à surmonter le problème de la barre. Donc, même si les marines, qu'elles soient espagnoles, portugaises, hollandaises, anglaises ou françaises, venaient pour bombarder le port de Salé, ils n'y arrivaient pas. Parce que l'ensablement empêchait ces gros navires européens de pouvoir mettre fin à ces petits corsaires qui ne vivaient que par leur compagne et par cette activité. Et donc, l'ensablement, c'était une bonne chose pour ces handicaps naturels, c'était une bonne chose pour que la course puisse survivre jusqu'au début du 19e siècle. Hein, c'est...
Oui. Alors justement, par rapport à ces types de bateaux, quel type de bateaux utilisaient-ils ? Est-ce qu'ils avaient un type particulier par rapport à la régence d'Alger, ou par la Tunisie, ou par Tripoli ?
Ben, disons que, étant donné que Salé, c'est un port atlantique, hein, contrairement aux autres ports maghrébins, c'est le seul port atlantique de nom, port corsaire de nom sur l'Atlantique. Et donc, les Salétains, comme aussi les Algériens d'ailleurs, ils ont pu bénéficier de l'apport des marins du Nord. Dès le début du XVIIe siècle, un marin hollandais, du nom de Simon d'Anzer, paraît-il, disent les sources, a enseigné aux barbaresques la manière de construire des navires ronds, ou des navires à phare carré, et aussi de les manœuvrer. On l'a appelé le bienfaiseur des corsaires, alors ce Simon d'Anzer. Et donc, mais c'était beaucoup plus bénéfique pour Salé, étant donné que c'est un port atlantique. Et donc, ils avaient besoin de navires plus forts, parce que bon, les Salétains armaient différents types de navires. C'est vrai que la plupart, une bonne partie de la flotte était petite et légère, mais on armait aussi des navires quand même qui étaient assez, quand même assez grands, comme les Chebec, par exemple, qui de 20 mètres. Et ce sont ce type de navires, disent les sources, notamment notre captif anonyme, qui arrivent à exercer ce qu'on appelle la grande course océanique. C'est-à-dire ces navires qui pillent les côtes du Nord. Je ne parle pas seulement des côtes espagnoles, mais aussi françaises, irlandaises et anglaises. C'était des gros navires. Des navires qui peuvent bien sûr rester jusqu'à 2 mois en campagne. Donc, ce sont ces navires-là, surtout pendant la première moitié du XVIIe siècle, et qui ont fait la renommée des corsaires de Salé. Donc c'était des navires assez grands, mais en armée, on continuait, même si c'était des voiliers, on a toujours gardé les avirons pour pouvoir sortir du port, déjà, et pour faciliter la mobilité, bien sûr, quand il y a un calme plat. Et donc, on a toujours maintenu, c'était des voiliers, mais on a toujours maintenu l'usage des avirons. On continuait à armer des navires longs, notamment des petites galères, des galiotes ou des demi-galères. Aussi, on continuait à... Il y a aussi des brigantins, les pinques aussi... mais quand même, le Chebec reste le navire par excellence des corsaires.
Et on en trouve trace, le vocabulaire est cité. On cite ce type de navire, le Chebec, dans les sources
Aujourd'hui encore, on continue à parler de Chebec. Mais oui. Le Chebec d'aujourd'hui, c'est juste un petit navire de pêche.
Non, mais je parle pour le XVIIe siècle.
Pour le XVIIe, c'est vrai que les sources marocaines restent assez ambiguës, parce que, quelquefois par frégate, il n'y a pas une terminologie très précise quant à la nomenclature des navires. Donc, on peut, sous le nom de frégate, on peut retrouver une tartane, je veux dire ça. Donc, le vocabulaire reste assez vague. Et on peut pas se... Même les sources françaises, quelquefois, il y a des erreurs et on n'arrive pas à donner le nom exact du navire. Ça, c'est vrai que c'est un problème. On armait également des caravelles, des frégates aussi. Mais comme je vous dis, il y a un problème quand même au niveau de la nomenclature des navires armés en course.
Parce que j'ai été étonnée au niveau des graffitis, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Mmh. J'ai vu des graffitis représentés dans des publications sur justement ce qui se trouvait au Maroc. Et très souvent, on représente des frégates, des grosses frégates. Mmh. Et je n'arrivais pas à trouver soit des bâtiments à voile carré, à voile latine, ou soit des bâtiments relativement légers. Je me retrouve toujours face à des grosses représentations de gros vaisseaux de guerre et autres.
Bah, disons que les navires de Salé, c'est des navires qui ne dépassaient pas les 200, voire 250 tonneaux, maximum. Hein, parce que généralement, la flotte, c'est une flotte de... On trouvait des navires de 100 jusqu'à 150, voire 200. Je dis dans les heures, pendant la période faste de la course. Hein, les heures de gloire, c'est surtout on armait des petits navires. C'est vrai qu'on retrouve de grosses frégates, mais alors là, c'est pendant la période décadente de la course, fin du XVIIIe siècle. Là aussi, c'est un sultan qui s'appelle Sid Mohamed Ibn Abdallah qui a essayé de redonner ou redorer le blason de la course. Il a continué à armer des navires, mais de gros navires, certains ne sont jamais sortis du port, notamment de grosses frégates jusqu'à 300 tonneaux. Donc, c'est des navires qui étaient inappropriés pour continuer à exercer la course. Donc, pour la fin du XVIIIe siècle, on retrouve des navires, de gros navires. Mais c'est une période décadente de la course. Et donc, c'est plus la course vécue par la grande course du XVIIe siècle. Donc mais là, je dirais, la période d'or de la course salétine, c'est le début du XVIIe siècle. Et donc là, pendant cette période-là, on n'armait pas de gros navires. C'était des navires. Par contre, le nombre d'hommes a toujours été très, très important au bord des navires corsaires de Salé. Donc on avait jusqu'à un homme, enfin 1,5 voire 2 par tonneau, ce qui est énorme par rapport, par exemple, aux navires de guerre français qui venaient bombarder les ports marocains. Même avec là je parle de Salé, mais on peut dire la même chose des corsaires d'Alger, parce que généralement il y a des campagnes, ils opéraient ensemble pour rasier les côtes anglaises par exemple. Il y avait une complicité assez extraordinaire entre les corsaires salétains et algériens par exemple. Hein, les Algériens venaient vendre leur butin dans les ports marocains. Quand il y a, par exemple, quand il y a des traités conclus avec la France par exemple. Donc, les Algériens ne pouvant plus attaquer les navires français, eh bien, ils arborent le pavillon salétain et vendent leur butin dans les ports marocains, qui, soi-disant, par exemple, quand ils sont en guerre avec les Français. Et vice-versa, les Marocains opèrent de la même façon.
Et sait-on un petit peu quel est le type d'armement ? Est-ce que ce sont des bateaux qui ont un armement assez important ? Parce que toujours, je fais la différence avec les corsaires algériens et autres. Mmh. En général, ils n'ont pas beaucoup de canons et ce sont toujours des abordages et des combats à main nue. Enfin, avec des épées ou des poignards, enfin des armes blanches.
Voilà, c'est justement ça. C'est ce que j'ai essayé d'aborder dans la seconde partie de mon livre, là, qui vient d'être publié sur Salé et ses corsaires. Donc, effectivement, le nombre d'équipages, c'était un équipage pléthorique. Toutes les sources le disent. Et où la supériorité numérique décidait du sort, quand il y a bien sûr un combat, c'est cette importance numérique qui est décidée du résultat du combat. Donc, c'est vrai aussi que les corsaires ont toujours souffert de cette pénurie en termes d'armement naval. C'est-à-dire que tout ce qui est canon, armes et munitions, ils n'étaient pas, bien sûr, produits sur place. On les importait surtout de l'Europe du Nord, surtout des Pays-Bas, des Provinces-Unies des Pays-Bas, qui étaient en guerre avec la Hollande. Et donc, comme ils avaient un ennemi commun, eh bien, les Maghrébins, bien évidemment, importaient. Quelquefois, ils arrivaient même, ils importaient même des navires entièrement armés pour s'attaquer aux Espagnols. Même les chaînes, disent certaines sources, pour enchaîner les captifs. Voilà, on livrait des navires entiers. Donc, il y avait toujours ce souci-là d'armement dans les ports barbaresques, et à Salé en l'occurrence, problème de ravitaillement en matière d'armes, munitions, poudre, etc. Ceci dit que le nombre des matelots et des hommes d'armes était vraiment très important. Et de là, bien évidemment, on peut penser aux problèmes pour survivre dans des espaces aussi restreints pendant des semaines. C'est vrai que ça posait un véritable problème sur place, enfin sur les navires.
Il n'y aurait pas aussi au niveau de l'armement un problème, parce que l'on voit entre les Anglais et les Français qui faisaient énormément, qui s'entraînaient énormément à tirer pour arriver à avoir... à tirer juste et à tirer loin et à tirer à la cadence qu'il fallait et autres. Mmh. Et il n'y avait pas justement ce problème dans ces pays-là d'un manque d'instruction au niveau de l'armement. C'est-à-dire arriver à avoir une espèce d'entraînement de la part de ces matelots pour être de bons canonniers. Parce qu'on a le même problème chez les corsaires français. Les petits corsaires ont des canons à bord, mais finalement ils ne s'en servent jamais.
Ben, disons que il y a eu une évolution au niveau de la course. On a dit les acteurs de la course au début, c'était des étrangers. On a vu que c'était des Andalous, des Morisques, des Renégats, des pirates de la Mamor, etc., etc. C'était c'était des gens qui avaient déjà une expérience chez eux, par exemple, en matière, tout ce qui touche au maniement des navires, à la manœuvre des navires, etc. Les locaux, les Marocains eux-mêmes, je dirais les autochtones, étaient pratiquement absents sur les navires corsaires au début du XVIIe siècle. On les retrouvait comme d'armes. J'ai d'ailleurs quelques passages relatant comment on s'en servait comme étant des hommes d'armes. J'ai ici le témoignage d'un captif anonyme, il faut que je le trouve. Il y avait, du moment où il s'agit de combattre l'infidèle, parce que ces corsaires salétains, ils s'attaquaient essentiellement aux Européens chrétiens, ils ne trouvaient pas de mal à recruter du monde. Il dit là, notre captif anonyme certifie que les équipages, je cite, s'appuyant d'une protection singulière de Dieu et de leurs prophètes, dès qu'il s'agit de combattre les chrétiens, car selon eux, c'est une œuvre agréable à Dieu d'exterminer les infidèles, d'abolir l'idolâtrie et d'exalter l'Alcorane, à l'imitation des chrétiens lorsqu'ils prêchaient la croisade pour faire la guerre aux Turcs. Donc, pour les équipages, du moment où il s'agit de combattre, les chrétiens, en plus, ils seront bien rémunérés suite à leur campagne, et bien, ils ne trouvaient pas du tout de problème à recruter des autochtones. On retrouve même dans les équipages, au début, c'est vrai que les Marocains, entre guillemets, étaient très nombreux à la base. C'est des Marocains qui venaient, on retrouvait des gens qui venaient de l'intérieur du pays, des montagnes, de l'Atlas, etc., et qui sont descendus à la ville de Salé pour trouver des emplois. Mais, comme je vous ai dit, c'était essentiellement des hommes d'armes ou des gens sans spécialité. Par la suite, par contre, on trouve une évolution par rapport à certains métiers. Les Marocains, on les retrouve beaucoup plus progressivement dans des postes requérant une certaine technicité. Si par exemple dans la première moitié du XVIIe siècle, les capitaines, une bonne partie des capitaines, sinon plus de la moitié étaient d'origine étrangère, des renégats, des morisques, andalous, etc. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on retrouve beaucoup plus de Marocains. Les 80% des capitaines sont d'origine marocaine. Donc on les retrouve quand même à certains postes de mestrance, etc. Alors qu'au début, on les retrouvait comme étant dans des spécialités, dans des postes qui ne requièrent pas de une grande, je dirais, habilité en matière maritime. Mais là, il y a quand même une importance, une évolution certaine.
Alors cela veut-il dire que la course est devenue très rentable ?
Oui, Oui, oui. Par exemple, pour parler bien sûr de la rentabilité de la course, tant que la course a été d'un apport rentable, les armateurs ne trouvaient aucun problème pour recruter des hommes. Et il est surtout question de ça dans la première moitié du XVIIe siècle. Surtout là, avec la République de Salé, etc., 1627, on retrouve, comme je vous ai dit, des hommes venus d'ailleurs. Hein. Le bassin de recrutement n'a pas cessé de s'élargir parce qu'on retrouve des gens venus d'Alger. Hein. J'ai ici quelques noms d'Algériens, Tunisiens qui opéraient avec les corsaires de Salé et qui étaient, bien évidemment, qui venaient de Tunis, ou d'Alger ou Tripoli. Là, par exemple, on relève des noms comme Yahya de Delovantin, un certain Yahya Trablusi de Tripoli, et un autre, Mohamed Turkli, un Turc. Il y a aussi, bien sûr, les renégats sont très présents. Mais c'est le plus important, c'est que on relève quand même un brutal gonflement des hommes du nombre des nationaux à bord des bâtiments corsaires dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Ceci dit, la rentabilité, elle est avérée dès les années 20 du XVIIe siècle. La rentabilité de la course, que ce soit en matière de marchandises, avec la vente bien évidemment du butin, mais aussi en matière d'hommes. Parce que une source d'approvisionnement de la ville, c'est la vente des esclaves, c'est la rançon qu'on tirait de la vente des captifs pris sur les navires. Et ces captifs-là étaient nombreux à Salé. Et donc Salé vivait aussi de ce commerce qu'on appelle le commerce des hommes, et aussi des marchandises déprédées. Et c'était très important. C'est vrai, une sorte de loterie corsaire, mais qui était rentable dans cette époque-là.
Le fait qu'ils utilisent les esclaves, enfin qu'ils vendent des esclaves, est-ce qu'ils les vendaient à d'autres pays? Comment ça se passait? Qu'est-ce qu'ils faisaient de leurs prisonniers finalement?
Enfin, les prisonniers européens, chrétiens qui étaient à Salé, bien évidemment la course, c'était la source d'approvisionnement en matière d'hommes, en matière de captifs. J'ai ici quelques dates, entre 1626 et 1635, il y a eu jusqu'à 6000 captifs à Salé. C'est quand même impressionnant par rapport à une population qui ne dépasse pas les 16 000 hommes. Ça fait pratiquement 40% de la population de Salé. Alors, comme le but ou l'objectif de la course, c'est bien sûr... on cherche à la rentabilité, eh bien, le but essentiel de la capture de ces hommes, c'est bien évidemment la revente. Donc la plupart de ces captifs abandonnaient Salé au bout de 2 ou 3 ans de captivité. Donc ils arrivent à se rançonner. Les mécanismes de rançonnement sont divers, et les moyens aussi de rançonnement aussi. Donc, on arrivait, parce que c'est des captifs qui travaillent, c'est des travailleurs, hein, on essaie d'en profiter au maximum, leurs propriétaires essayaient d'en profiter au maximum. Et donc, ils travaillaient sur place, mais quand même, ils avaient un salaire. Alors, pour réunir la rançon, ils ont intérêt à travailler longuement, je dirais, pour pouvoir réunir cette rançon, pour pouvoir se racheter et rentrer chez eux. Ben, tout le monde n'a pas cette chance-là, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas du tout à réunir la somme de la rançon. Et puis là, bien évidemment, on écrit, les captifs écrivent à leurs parents pour leur demander l'envoi de la rançon. Il y a aussi ce qu'on appelle les opérations de rédemption menées par les pères, les trinitaires, les capucins, etc., qui venaient, il y avait des institutions spécialisées dans le rachat de captifs. On venait, on rachetait des centaines de captifs sur place. Mais bon, la démarche quand même, elle était assez délicate et difficile. Mais ça aussi, c'était un moyen pour libérer les captifs chrétiens au Maroc. C'est dommage qu'on n'avait pas les mêmes institutions du côté musulman pour racheter les Turcs, ce qu'on appelait les Turcs en Europe. Parce qu'on n'avait pas les mêmes institutions religieuses. Mais bon, ça c'est un autre thème. Par contre, les missions de rédemption contribuaient d'une façon durable. Hein. Tout le XVIIe siècle et le XVIIIe, on retrouvait encore des pères religieux qui se rendaient en terre barbaresque pour racheter les captifs. En quelque sorte, ça encourageait les corsaires à en prendre plus, parce que du moment où c'est rentable, on revient à chaque fois pour les racheter. Donc, c'est devenu un commerce, on l'appelle le commerce des hommes, un commerce lucratif. Donc, alors la tendance, c'est que dans la première moitié, jusqu'à l'arrivée des Alaouites au pouvoir, des sultans Alaouites, on essaye de se débarrasser le plus tôt possible des captifs, moyennant le paiement d'une rançon. Avec l'arrivée des Alaouites, non. Alors, d'après les statistiques que j'ai, les captifs passent de plus en plus de temps dans les prisons marocaines, notamment à Meknès, où il y avait un bagne quand même assez extraordinaire. Et donc, le sultan voulait utiliser les captifs, comme j'ai dit tout à l'heure, comme une arme politique. Et donc, pour les échanger contre les captifs marocains en Europe. Pour lui, il était hors de question que les Européens rachètent leurs captifs moyennant des sommes d'argent. Donc, il essayait à chaque fois d'échanger captifs marocains contre captifs européens. On voit ça, par exemple, lors de la prise, ce qu'on appelle la reddition de Larache. Larache, c'est une ville portuaire située sur l'Atlantique, pas loin de Tanger, entre Tanger et Rabat. Et elle a été prise par les Espagnols en 1610. Elle est restée espagnole jusqu'à 1689. Et les Marocains ont réussi à les déloger. Et ils ont réussi à mettre la main sur un cheptel, je dirais humain, assez important. Pratiquement 1700 Espagnols ont été pris par les Marocains. Ils sont convertis en véritables prisonniers de guerre. Et pour les racheter, il y a eu des tractations politiques assez longues et interminables entre le Maroc et l'Espagne, entre Meknès et Madrid. Et le sultan marocain va jusqu'à demander l'échange d'un Espagnol, officier espagnol, contre 10 Marocains. C'est-à-dire, il y avait 100 officiers espagnols qui ont été échangés contre 1000 captifs marocains en Espagne. Et du moment où il n'y avait pas les 1000 Marocains, il a étendu le type, si vous voulez, des captifs. Il a dit, un officier espagnol contre 10 musulmans, 10 Turcs en Espagne. Et l'opération s'est effectuée de cette façon-là. Donc, les captifs, c'était quand même une source très importante pour la cité.
Eh bien. En revanche, moi, je me posais la question à propos de ces captifs. Il n'y en a pas qui ont été utilisés dans les galères ?
Oui, oui, oui. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les Salétains, bien sûr, c'est des grands voiliers, mais ils ont maintenu l'usage des avirons. Ceci dit, le nombre des esclaves n'était pas très important par rapport aux galères d'Alger ou Tunis, parce que c'était des voiliers. Donc, on utilisait les galères, on utilisait les avirons, on utilisait les esclaves, mais par petit nombre. Ça ne dépassait pas, je crois, 6% des hommes embarqués. Là, par exemple, j'ai quelques chiffres tirés des navires salétains pris dans le cadre d'opérations contre course, menées par les Français, par exemple, en 1681. Eh bien, le nombre des esclaves ne dépasse pas les 6%. Alors, le nombre de captifs, il faut le dire, reste très peu, reste insignifiant par rapport à ce qui se passait. Voilà, ici j'ai un tableau. Par exemple, la proportion des esclaves chrétiens dans l'équipage des corsaires salétains pris par les Français en 1681. Alors, celui pris par Jean Bart, un navire pris par Jean Bart où il y avait 300 Marocains à bord, on retrouve que 18 esclaves chrétiens, c'est-à-dire 6%. Le navire salétain pris par les corsaires français, toujours pendant 1681, on retrouve sur le deuxième navire 125 Marocains, dont 18 esclaves chrétiens, c'est-à-dire 14%. Et un dernier navire pris par le marquis de Longeron, on retrouve 120 Marocains et 15 et 15 esclaves chrétiens. Donc par rapport aux autres marines de guerre barbaresques, le nombre des esclaves reste très peu important, reste voire même insignifiant pour les Salétains. On utilisait très peu, on employait très peu d'esclaves chrétiens sur leurs bâtiments. C'est aussi par souci de sécurité, parce qu'il y a eu toujours cette peur que lors d'une scène d'abordage, que les esclaves se révoltent sur le navire. Et donc, bon, ils avaient intérêt à la mettre, mais toujours en petit nombre, hein, pour éviter d'éventuelles surprises à bord. Voilà.
Alors pour terminer cette émission, une dernière question. Que devient cette marine corsaire? À partir de quand elle disparaît?
Disons que la flotte corsaire, dans les années d'apogée de la course, les Salétains arrivaient à aligner jusqu'à 60 unités. Ça, c'est vers les années 1620-1630. Mais disons que dans la seconde moitié du siècle, on retrouve à 15 une flottille de 15 unités, ce qui est très peu donc par rapport à ce qui se passait avant. Donc on retrouve les mêmes les 15 unités. Je parle seulement de Salé, hein, parce que bon, il y avait un autre port qui était Tétouan qui armait aussi des navires en course. Donc, il y a eu quand même une diminution permanente, mais la course continuait, hein, jusqu'à l'arrivée, comme j'ai dit, des sultans à la huit. La course continuait. Il faut attendre, certaines sources parlent d'une flotte plus importante avec la mort du sultan. Le sultan Moulay Ismaïl, une fois qu'il est mort, apparemment, les Salétains se sont intéressés davantage à la course, parce que avec l'arrivée des Alaouites, ce sont eux qui commençaient à armer en course, et même les prises, s'il y a un armateur privé qui arme en course, si jamais il ramène des prises, même les prises sont systématiquement raflées, en quelque sorte, par le sultan. Donc la course intéressait de moins en moins les Salétains. Donc ils ont attendu la mort du sultan pour relancer l'activité corsaire de nouveau, et un consul français à Cadix, Partier, disait en 1733 que les Salétains ne vivaient que de la mer. Donc voilà, ils ont commencé à armer de nouveau, etc. Et tant que l'instabilité politique était là, c'est-à-dire de la mort du sultan jusqu'à, c'est entre 1727 jusqu'à 1757, c'est-à-dire 30 ans d'instabilité politique qui a suivi la mort du sultan, eh bien, la course renaît de nouveau. Et une fois que le nouveau sultan est mis sur le trône, eh bien, il va un peu refaire le même scénario que son grand-père. Et donc, il va étatiser la course. La course devient aussi une affaire d'État. Et donc, même les marins reçoivent un salaire mensuel, comme un siècle auparavant. Et les corsaires, ça ne les intéressait plus de prendre la mer pour prendre un salaire modique. Parce qu'à l'époque de la République, on se partageait le butin. Si on gagne, on est tous gagnants. Si on perd, on est tous perdants. Donc, ils avaient intérêt à bien naviguer, à bien combattre pour avoir un butin important. Mais alors là, avec les sultans, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont devenus des sortes de salariés. Donc, leur salaire ne bouge pas. Qu'ils aient fait des prises ou pas, le salaire est le même. Il paraît même que, disent les sources, certaines sources françaises, il suffit qu'un marin tombe malade pour que tous ses compagnons l'emmènent chez lui et ne reviennent plus. Donc ça, je crois que ça veut tout dire. Et même les armateurs avaient du mal à trouver du monde pour aller en course. Les sources disent que certaines, par exemple pour Tétouan, le gouverneur de la ville cherchait les marins qui se sauvaient ils se sauvent dans les montagnes. La course, là, il ne les intéressait plus parce que c'est plus rentable. Donc, il faisait tout pour ne pas prendre la mer. D'accord. Et même chose, à la fin du XVIIIe siècle, on continue à parler de course, mais pendant cette période-là, le sultan a signé des traités de paix et de commerce avec les différentes puissances européennes. Et donc, il a en quelque sorte essayé de calmer un petit peu le jeu. Donc, la course, il y a des navires corsaires qui ne sont jamais sortis du port. Et donc, la course, bon, c'était une période décadence déjà de la course. Et sous le règne de son petit-fils, fin 18e, début 19e, Il y avait quelques unités, corsaires qui ont été offertes aux autres régences du Maghreb. Parce que bon, le sultan a vu que c'était plus intéressant d'exercer la course. Déjà, on est déjà début 19e siècle, donc il a offert la flotte aux corsaires d'Alger, Tunis et Tripoli. Ceci dit, quand l'occasion se présentait, les Salétains continuaient à bombarder certains navires européens. La preuve, le port a été bombardé de nouveau par la marine autrichienne en 1944. Donc Salé a été bombardé. Et voilà, c'était en quelque sorte la dernière fois que les corsaires de Salé partent en campagne.
Merci Leïla, merci beaucoup pour ce passionnant sujet des corsaires.
Merci.
C'est vrai que ça nous titille au fond de l'âme, là, que ce soit des corsaires salétains ou corsaires français ou autres. Et j'espère que tu reviendras bien vite.
Pourquoi pas
poursuivre cette aventure.
Bah oui, ça continue. Là, je travaille aux archives pour reconstituer un petit peu les campagnes anti-corsaires françaises.
Parfait.
Donc voilà.
Très bien. Bien, merci. Ici, Autre Radio, Autre Culture. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Autre Radio, Autre Culture.